génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, on n'a pas de but ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Pardon.
Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts, d'ailleurs, on fait la liaison, on fait les choses bien. Alors, il est 23h et des brouettes, j'ai pas la montre. Ah, il est 23h15, on a commencé un petit peu à la bourre. Il est donc 11h15 et je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Je vous rappelle que l'émission Les yeux grands ouverts possède un blog sur le site de Radio Canu où vous pouvez retrouver tous nos podcasts en ligne. Il doit en manquer deux, les deux derniers, je pense qu'ils n'ont pas été déposés encore. Mais sinon, en grande majorité, ils y sont tous. Nous avons également une boîte mail qui s'appelle les yeux grands ouverts tout attaché @laposte.net. Alors, vous mettez un S à grand et un S à ouvert, ainsi qu'un X à les yeux quand même, hein, fait pas de faute de français. On a également la page Facebook, je sais pas si je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. On a une page Facebook, donc vous allez sur le fameux réseau social et vous tapez les yeux grands ouverts tout avec un S de la même manière. Vous allez tomber sur la page. Et puis voilà, je tiens à signaler aussi au passage que comme le faisaient remarquer les camarades juste avant, il y a la radio Canu qui fait un appel à dons, puisque c'est compliqué de subvenir à nos besoins. On est une radio libre et indépendante. Malheureusement, les loyers, surtout ici sur Lyon, ont tendance à fâcheusement augmenter en ce moment. Alors, pour pouvoir devenir totalement indépendant, on est en train de lancer une campagne de dons pour pouvoir acheter des locaux et pérenniser la radio, Radio Canu 102.2 FM sur Lyon, qui existe depuis très très longtemps. Je ne sais plus combien de temps exactement. C'était dans les années 70. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, que je vous ai lancé gentiment avec une petite introduction qui était un article de Carl Sagan, c'est l'autodéfense intellectuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autodéfense intellectuelle ? Donc, la manière dont nous l'explique Carl Sagan, il donne un exemple assez concret, c'est celui de l'achat d'une voiture usagée. Quand on va acheter une voiture d'occasion à divers endroits, à diverses personnes, on est assez prudent en général, on essaye de faire attention pour pas se faire rouler dans la farine. Donc on est très regardant sur ce qui a été fait sur la voiture, d'où elle vient, qui l'a eu, pourquoi, comment, etc., quelles pièces sont dessus. Donc on pousse notre scepticisme assez loin pour pas se faire rouler. Et il dit que donc cet état d'esprit là devrait être à l'œuvre de partout, dans tout ce qu'on fait dans la société. Également lorsque on veut s'informer ou quoi que ce soit de différent, même dans les conversations, on doit être sceptique. Et il dit que ce scepticisme n'est pas réservé à une petite classe d'universitaires qui ont fait des bonnes études, que tout le monde devrait pouvoir en être capable. Un bon petit résumé, hein. Il place ça aussi en parlant des publicités ou de la qualité des bières. Chacun devrait pouvoir être capable de juger de cela avec ses propres armes. Alors l'autodéfense intellectuelle, c'est un terme qui a été inventé par Noam Chomsky, hein, dont je vous ai déjà pas mal parlé. On pourrait aussi appeler ça la pensée critique, hein, chacun l'appelle un peu comme il veut. Alors pour illustrer un peu tout ça, je vais commencer par une petite citation de John Milton qui dit « Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugle. » Excusez-moi, je bug un peu. On va la refaire. « Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugle. » Donc le peuple, selon certaines élites, est prétendu ignorant et donc ne peut pas prendre des décisions pour lui-même puisqu'il est stupide. Et alors on décide qu'il faut laisser ça à une petite classe, mais en fin de compte, on reproche au peuple d'être aveugle, de ne rien voir, mais c'est tout simplement parce que la petite classe dominante le rend aveugle. Alors Chomsky, là-dessus, il pense par exemple, mais alors on se réfère plus au système, il pense que, alors il le dit en américain, je vais essayer de le faire, c'est pas évident, « Propaganda is to democracy what violence is to a dictatorship ». Ça veut dire, en gros, que la propagande qui existe dans la démocratie est la même chose que la violence qui existe dans une dictature. Il pense que la démocratie tient car elle feint de faire vivre des débats plutôt vigoureux. Et contrairement à une dictature où on impose un débat et en plus quand les personnalités ne sont pas dans les règles de l'art, on leur tape dessus ou on les enferme. Elle fait croire donc à un débat vigoureux, la démocratie, mais dans un cadre très précis. Et en fin de compte, elle zappe certaines questions. C'est ce qu'on a évoqué notamment dans les quatre précédentes émissions où on a parlé des médias en général. Alors, avant d'engager tout ça, on va se passer un petit document audio, hein, on commence directement, on rentre dans le gras du sujet tout de suite, mais pas vraiment dans l'autodéfense intellectuelle directement. Là, on va essayer de comprendre ce contre quoi on essaye de se combattre, de se défendre, de combattre. Noam Chomsky, donc, qui est interviewé par Daniel Mermet et Guy Vanctil, de là-bas si j'y suis, il va nous expliquer contre quoi il faut se prémunir, d'où il vient ce système de propagande qui existe un peu de partout, parce qu'il n'est pas seulement politique, il peut être aussi économique, hein, la publicité c'est un système de propagande. Il va nous expliquer comment ça a été utilisé dans l'histoire, car bien que l'autodéfense intellectuelle soit utilisable dans n'importe quelle situation de la vie, la première chose contre laquelle elle doit nous protéger, c'est ce que va nous décrire Noam Chomsky dans le petit document qui suit. Allez, à toi, Noam Chomsky.
Alors, on le voit avec Chomsky, c'est pas seulement la liberté supposée ou honnêtement supposée du journaliste qui est en cause, c'est tout l'appareil qui, toutes ces structures invisibles évidemment, qui vont pousser au consentement général, à l'assentiment général, aux illusions nécessaires. Et ce qu'il faut bien appeler la propagande, ce que Ederman et Chomsky appellent bel et bien la propagande, a une histoire. On va le voir plus loin avec Normand Baillargeon et son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Il y a un moment où l'ouverture de ces sociétés où nous vivons, nous, heureux, humains, gâtés dans des sociétés démocratiques et ouvertes, il a fallu trouver quelque chose pour nous contrôler et nous faire aller là où ces pouvoirs souhaitaient que nous allions. Alors, j'ai donné l'impression qu'il y a des propos paranoïaques avec un pouvoir caché derrière un immense complot. Non, disent Ederman et Chomsky, il y a un état des choses qui est ainsi sans nécessairement que quelqu'un quiconque l'ait véritablement conçu. Il n'y a pas quelque part un endroit où on tire véritablement les ficelles. C'est un système qu'il s'agit peu à peu de mettre à nu et nous pouvons en tout cas contribuer à cette mise à nu du système.
It's very familiar. Let's take again, say, Germany in the 1930s.
Prenons un autre exemple, l'Allemagne dans les années 30.
I mean, Germany, we tend to forget, was the most advanced country in the Western world.
On a tendance à oublier, mais l'Allemagne à l'époque était le pays le plus en avant dans tout le monde occidental.
It was at the peak of science and the arts and literature and philosophy.
À la pointe dans l'art, les sciences, la littérature, la philosophie.
Within a few years, it was turned into the most barbaric, murderous country in human history.
Et en quelques années, ça s'est retourné en étant le pays le plus meurtrier, le plus barbare que l'humanité ait connu.
And a lot of it was based on the creation of fear.
Et tout cela en suscitant de la peur.
Fear of the Bolsheviks,
la peur des bolcheviques, des juifs,
the Americans,
des Américains.
The center of Western civilization, the inheritors of the Greeks.
Voilà, qui menaçait le cœur de la civilisation européenne, les héritiers directs de la civilisation grecque.
That's what Martin Heidegger was writing in 1935.
C'est ce que le philosophe Martin Heidegger écrivait en tout cas en 1935.
And it was, of course, all over the media. And in fact, they were borrowing consciously the techniques of American commercial advertising.
Et ils étaient en fait en train de reprendre délibérément les techniques marketing des marchands américains.
You read the propaganda ministry in Germany and they explain it. They take a few simple words, you keep repeating them over and over, you appeal to emotion, you appeal to fear, and so on.
Il suffit de voir les règles du ministère de la propagande allemand à l'époque, c'était très simple. Il suffit de prendre des mots simples, les répéter encore et toujours, les associer à des peurs, les associer à des sentiments.
When Hitler took over the Sudetenland, it was with the most noble objectives.
Quand Hitler envahit les Sudètes, c'était avec les objectifs les plus nobles qui soient.
It was a humanitarian intervention.
Et c'était une intervention humanitaire.
They were going to overcome ethnic cleansing, you know.
Ils allaient empêcher le nettoyage ethnique.
All these people would live happily within the supervision of the world's most advanced cultured nation.
Pour que tout le monde puisse vivre sous l'aile, sous le soutien de la puissance la plus développée du monde de l'époque.
Il y a toujours une cause très vertueuse.
When Germany invaded Poland, it was in self-defense.
Et quand l'Allemagne a envahi la Pologne, c'était aussi pour l'autodéfense.
It was in self-defense against what Hitler called the wild terror of the Poles.
C'était contre la terreur blanche, ce qu'appelait Hitler.
Alors, vous travaillez depuis longtemps sur ce thème, vous avez mis ce thème à jour. Est-ce que vous voyez une évolution ou bien est-ce que c'est vraiment, il faut désespérer et on ne changera jamais rien?
Well, you know, in a sense, everything is the same as in Athens.
Oui, d'une certaine manière, tout est toujours pareil qu'à l'époque de l'Athènes.
But there's been a lot of progress.
Mais il y a eu énormément de progrès.
For example, take just the instruments of propaganda that I've been discussing.
Prenez par exemple l'exemple des instruments de propagande dont j'ai parlé.
They mostly developed in the 1920s.
Ils sont développés principalement dans les années 20.
In the freest countries in the world.
Dans les pays les plus libres du monde, l'Angleterre, les États-Unis.
And that's the center of the modern public relations industry, which is a propaganda agency.
Le cœur vraiment de l'industrie moderne de relations publiques, qui est en fait de la propagande.
And the reason was, and it was conscious, is that there had been enough progress, and that people had won so much freedom that the state could no longer control them by violence.
Voilà, et la raison de ça, c'était qu'il y avait tellement de développement des libertés que le pouvoir, l'État, ne pouvait plus régner sur les gens par la violence.
Women were being allowed to vote, there was more freedom of speech, people had won many rights.
Les femmes avaient le droit de voter, les gens avaient plus de droits.
So then there was a move towards what was called manufacture of consent.
Et c'est par là qu'on est allé vers la fabrique du consentement.
And that's when you get the public relations industry, the huge propaganda industry, using the democratic models of thought control.
Et c'est là où l'industrie de relations publiques, qui est l'industrie de propagande, utilise
engineering of consent, voilà, et thought control.
Voilà, utilise les méthodes de la fabrique du consentement et du contrôle des idées, les contrôles des pensées.
And that's a lot of progress.
Et ça, c'est un grand progrès.
I mean, it's much easier to face advertising than to face a torture chamber.
Et oui, c'est beaucoup plus facile de regarder une publicité que de regarder une chambre de torture.
Voilà, petit documentaire de Là-bas si j'y suis, avec Noam Chomsky. Donc voilà, en fait, il nous explique un peu les tenants et les aboutissants de ce qu'est le système de propagande, quand est-ce qu'il a commencé, etc. Il explique qu'en fait, classes dominantes ont compris qu'il était beaucoup plus simple de faire admettre des idées plutôt que de les faire rentrer de force dans les esprits par la violence. Alors ils ont commencé à créer ce qu'on appelle l'industrie de la communication, ou comment il y en a qui appellent ça propagande. Bon, on lui donne des petits euphémismes pour essayer de faire passer un peu la pilule, mais au final c'est la même chose. Alors c'est surtout contre ça qu'on doit se prémunir, même si le cours d'autodéfense intellectuelle va servir aussi à autre chose, hein. Mais dans un premier lieu, c'est surtout pour se défendre contre la grande propagande qui existe autour dans les médias et aussi dans les consciences, hein, qu'on va faire ce petit cours. Alors l'autodéfense intellectuelle, qu'est-ce que c'est ? J'ai un peu lancé tout à l'heure avec la petite intro de Carl Sagan qui expliquait grosso modo ce que c'était. Je vais un peu donner ma version des faits et essayer de vous expliquer ce que c'est. Alors c'est se prémunir contre un flot d'informations, d'ailleurs parce que je pense que vous devez vous en rendre compte que dans les médias traditionnels modernes, on nous laisse pas le temps de réfléchir. On nous balance des flots d'informations à ne plus en pouvoir respirer toute la journée. On n'a pas le temps vraiment d'approfondir nous-mêmes dans nos propres esprits ce qui vient de nous être annoncé, puisque derrière, eh ben, on continue avec encore de l'autre info, des petits faits divers à droite à gauche, des conneries comme ça. Au final, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc il faut arriver à se prémunir et à relativiser la manière dont on nous présente les infos. Il faut préserver son esprit critique, ça c'est un deuxième point qui est vachement important pour l'autodéfense intellectuelle. Quelle que soit la personne qui nous explique quelque chose, il faut arriver à se dire qu'à un moment donné, il faut qu'on reste prudent et qu'on réfléchisse bien et pas agir sous le coup de l'émotion. Déchiffrer pourquoi on utilise aussi une certaine manière pour nous faire passer des informations, parce que il y a certains messages qu'on va nous faire passer d'une manière ou d'une autre pour essayer de nous influencer, mais on va le faire implicitement, histoire de perturber un peu l'affaire. Il faut aussi, grâce à ce cours d'autodéfense intellectuelle, il faut apprendre à comprendre les argumentations fallacieuses. Parfois, on peut, alors c'est ce que les intellectuels appellent le sophisme, il y a des manières rhétoriques de retourner un débat, de faire pencher la balance dans son sens, malhonnête, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il y a un débat qui a lieu entre des personnes et qu'il y a des arguments ou un fond qu'on n'a pas envie d'entendre dire par certaines personnes ou d'autres, eh bien, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle le sophisme, c'est-à-dire qu'on va argumenter pas contre le fond des idées qui ont été proposées par l'interlocuteur, mais plus sur le fond, sur la forme ou sur la personne qui est en train de parler. Si, par exemple, comment expliquer ça ? Oui, par exemple, imaginons que Frédéric Lordon est en train de débattre avec Jacques Attali, ce qui serait énormissime, mais c'est impossible. Et qu'au bout d'un moment, un peu repoussé dans ses retranchements, Jacques Attali se sente dérangé parce que Frédéric Lordon dit trop de trucs qui le dérangent. Et ben, au final, il pourrait être capable de lui dire « Oui, mais oui, vous proposez la sortie de l'euro comme le Front National. » Et voilà, et ce serait une manière d'agiter le drapeau rouge pour lui dire eh oh, t'as pas le droit de dire ce que tu veux, puisqu'au final, tu vois, sur certaines positions, tu vas penser comme le Front National. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, ou alors on va s'attaquer à l'homme, c'est ce qui se fait dans certains débats, on va lui rappeler ce qu'il a pu faire dans le passé, ou le milieu social duquel il vient, enfin, il y a plein de manières beaucoup plus fines que celle-ci, mais j'ai grossi le trait pour essayer d'expliquer ce que c'est que le sophisme. Alors de la même manière que pour un achat de voiture, hein, lorsqu'on enquête pour tout savoir sur son véhicule, c'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir à l'autodéfense intellectuelle. De la même manière aussi, on peut donner l'exemple lorsqu'il y a deux amis, par exemple, à qui il est arrivé un accrochage, un contentieux, et que vous êtes un peu neutre dans l'histoire, parce que les deux sont vos amis, vous essayez de comprendre les deux parties, les arguments qu'ils ont chacun à vous donner pour essayer d'appréhender ce qui s'est réellement passé dans la situation. Et si jamais vous êtes sous le coup de l'émotion et que vous vous laissez trop endormir par l'une des deux personnes, vous pouvez vous tromper de constat sur ce qui vient de se passer, par exemple. Alors, on va rentrer un peu dans le sujet. Alors, tout commence... pour l'autodéfense intellectuelle, par une déclaration de Noam Chomsky qui répondait à une question. On lui demandait « Comment doit-on faire pour échapper à la propagande des médias de masse ?» Alors Noam Chomsky a répondu « La première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de son cerveau. La seconde est de vous extraire de tout ce système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où il devient un réflexe de lire la première page du Los Angeles Times en y recensant les mensonges et les distorsions. Un réflexe de replacer tout cela dans un cadre rationnel. Pour y arriver... vous devez encore reconnaître que l'État, les corporations, les médias et ainsi de suite vous considèrent comme un ennemi. Vous devez donc apprendre à vous défendre. Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Un jour, il a fait cette déclaration, quand il était interviewé, ou alors dans un colloque, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses, Noam Chomsky, Et alors Normand Baillargeon, qui est un Québécois, qui habite à Québec même d'ailleurs, a entendu cette citation, parce que Noam Chomsky est un intellectuel très influent, et ça l'a inspiré. Il s'est dit oui, ben c'est une excellente idée, c'est vrai que c'est super vrai ce qu'il dit dans le fond, parce qu'en fond, plutôt que de bourrer le crâne des gosses à l'école avec des références ou leur apprendre à faire des maths ou des statistiques, on devrait tout simplement leur apprendre à être sceptique, à réfléchir, à creuser, à se défendre intellectuellement. Et alors Normand Baillargeon s'est dit ben comment se protéger, comment on peut faire, et il a décidé d'essayer de créer un cours. Alors comment se protéger sans devenir paranoïaque, bien entendu, hein, sans tomber dans une espèce de complotisme, car douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui, à elles deux, nous dispensent de réfléchir. C'est un bon petit exemple pour signifier que douter de tout, rien vouloir croire, vous place dans une situation aussi délicate que lorsque vous croyez tout. Il faut juste être sceptique et réfléchir au fond et à la forme. Alors, on va passer directement un petit morceau pour couper un peu tout ça, pour s'aérer l'esprit 5 secondes. Et après, on va rentrer un peu plus dans le sujet, en profondeur. On va essayer d'étudier le langage, comment se défendre de la manière dont on nous explique certaines choses. Alors, le morceau que je vais vous passer, c'est un morceau du groupe Trice qui s'appelle Ultra Blue. En avant. Attendez, petit bug, c'est technique, la technique c'est magnifique.
Comme les nuages.
Non. Voilà, allez, c'est parti.
Blue, the melodic battleground.
Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu. Alors j'ai un petit bug technique, décidément ce soir ça va pas du tout. J'essaye de redémarrer la musique mais je n'y parviens pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors on va quand même essayer de continuer. Bon, du coup on n'aura pas la bande sonore dans le fond, c'est moins sympa, mais on va se dépatouiller comme ça. Donc nous étions en train d'aborder plus l'aspect du langage, puisque j'ai essayé de placer tout ça dans le contexte pour expliquer pourquoi Normand Baillargeon a eu l'idée d'écrire ce petit bouquin, d'ailleurs, que je vous recommande chaudement. C'est un bouquin qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle », donc écrit par Normand Baillargeon, avec des illustrations de Charb aussi, qui est un des dessinateurs de Charlie Hebdo, et c'est aux éditions Lux, L-U-X, tout simplement. Donc faites-vous plaisir. Oh, la musique, c'est magique. C'est formidable, la technologie. Et voilà, donc aux éditions Lux et Instinct de Liberté. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Continuons. Non, il veut pas. Je sais pas ce qu'il a, le lecteur CD ce soir. Il veut pas. Il m'embête. Bref, alors on continue. Donc on va parler un petit peu du langage, parce que le langage est un bon, très bon moyen de propagande, comme beaucoup d'autres, hein, vous me direz. Mais c'est vraiment un moyen particulier. Nous allons commencer pour cela, à part parler du langage, c'est quelque chose de formidable, hein, parce que, comme vous savez, ça permet d'échanger entre nous, entre personnes. On peut se faire passer des idées, comme par exemple ce que je suis en train de faire actuellement. Mais le langage permet aussi de faire passer des informations, hein, de transmettre des infos. Donc je disais, cette transmission, il y a plusieurs manières, surtout ambiguës, de faire passer ces infos grâce au langage. Ça ne veut rien dire ce que je raconte. Les mots sont donc ils servent à nommer les choses. On appelle cela dénoter. Donc je dénote quelque chose, par exemple une table, une chaise. Je dénote quelque chose. Donc ce sont des noms. Mais les mots qu'on utilise servent aussi à connoter des objets. Connoter, ça veut dire qu'on leur donne un sens, une couleur ou quelque chose. Comment expliquer ça ? Connoter, ça veut dire donner une référence, une couleur, une dimension majorante ou minorante à un mot, ce qui signifie que la connotation a la capacité d'atténuer la portée qu'on veut donner au sens du mot, ou bien elle a la capacité de l'aggraver selon la recherche qu'on veut faire, qu'on veut donner, et selon l'effet qu'on veut donner. Voilà, de la musique, si ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, en utilisant certains synonymes d'un mot plutôt que d'autres, eh ben on va réussir à avoir une influence plus ou moins différente en faisant passer quasiment le même discours en fond, mais avec en laissant une émotion, en transmettant des émotions par les mots et les phrases qui vont les renforcer, ça va donner des effets sur le récepteur qui seront plus ou moins différent, et donc grâce à ça on va réussir à manipuler un peu la personne qui va recevoir le message. Je vais l'illustrer avec quelques exemples concrets. Alors par exemple, lors de la fin des années 90, lorsque les entreprises se sont rendues compte que les produits OGM passaient, donc les organismes génétiquement modifiés, les produits et aussi la manière de cultiver, hein, OGM, parce que lorsqu'ils se sont rendus compte que ça passait plutôt mal auprès du grand public, les grands groupes qui s'occupaient de cela, comme Monsanto, hein, qui est le groupe le plus connu dans ce domaine, ils ont fait appel à des entreprises de relations publiques, des entreprises de propagande, grosso modo, mais pour les multinationales, qui ne travaillent pas pour des gouvernements, mais pour des multinationales, pour que, en fait, ils ont fait appel à ces firmes de relations publiques pour que le message soit mieux passé, de manière à ce que les consommateurs admettent les OGM, les tolèrent mieux, ou peut-être même, dans certains cas, n'en aient plus du tout peur, ou même... Enfin, voilà, quoi. Et là, le travail qu'ils ont effectué, c'est un travail fort sur le langage. Ils ont donc délimité un champ sémantique, c'est-à-dire des références de mots avec des connotations positives qui était nécessaire d'employer pour rassurer les gens. Alors ça pouvait être utilisé n'importe quand dans les débats, etc., ou dans les campagnes de publicité. Alors par exemple, les mots qui étaient utilisés le plus souvent pour parler de tout ça, c'était nature, naturel, air, eau, nuage. Et d'autres mots qui étaient formellement interdits d'utiliser ont été décidés, car ceux-là, ils avaient une connotation plus négative pour les OGM, comme par exemple la science ou plantation. Pour en arriver à ce champ sémantique, ils ont tout simplement testé sur un panel de personnes les effets des mots. Ils leur ont expliqué et décrit à toutes ces personnes ce qu'étaient les OGM. Alors, avec je sais pas de quelle manière, hein, mais si c'était un texte ou si vraiment ils étaient à fond dans les références ou si vraiment ils rentraient dans les détails techniques. Mais ils leur ont expliqué ce qu'étaient les OGM avec différents langages, différentes manières de l'expliquer. Et de là, ils en ont retiré une grille de mots, donc une qui était proscrite et l'autre qui était prescrite pour vendre et défendre ce mode d'agriculture et ses produits, que ce soit d'ailleurs sur les plateaux TV ou même dans les pubs. Alors on a un petit exemple qui illustre tout ça. C'est un spot publicitaire de l'entreprise Monsanto. Alors vous allez écouter ça et puis vous m'en direz des nouvelles, comme on dit. Si ça fonctionne cette fois-ci, hein, si je bug pas. Allez, c'est parti.
Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
Voilà, c'est très très court. Et donc bien sûr c'est un spot télévisuel. Donc en plus de ça, vous entendez le vent qui souffle dans le micro. Donc on a vraiment, enfin on s'y croit, on a l'impression d'y être. On est dans la nature avec un langage qui est vraiment sélectionné, qui est à la pincette, histoire de bien faire passer l'information. Et puis voilà. Donc ce qu'on entend en dire dans ce spot, c'est que si en fait, si, quand on entend ça, on a l'impression que si on n'achète pas les cultures, enfin le produit qu'ils vendent là, le truc de merde, là, comment ça s'appelle déjà, le Roundup. Si on n'achète pas ce truc-là, eh ben on a l'impression que toutes nos cultures, elles vont mourir. Quand on se dit, mais je suis irresponsable. C'est tellement naturel, c'est tellement bien. Sauf que chacun sait que ce désherbant est une horreur, qu'il est polluant, qu'il est dangereux, à tel point que en janvier 2007, la société Monsanto a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour publicité mensongère, chose qui avait déjà été faite auparavant aussi aux États-Unis. Depuis, ils ont une interdiction d'indiquer et de dire que ce produit est bon pour l'environnement, parce qu'on sait tous que c'est une catastrophe. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que comme souvent, la justice est arrivée trop tard. Hein, elle a quand même réussi à limiter un peu la publicité mensongère que pouvait faire le groupe Monsanto sur ce produit. Mais ils sont arrivés beaucoup trop tard, parce que la campagne de communication qui avait été faite auparavant par Monsanto a eu des effets très très bénéfiques, parce que grâce à tout ça, les conclusions qui sont arrivées, les conséquences, c'est que le fameux Roundup, le produit désherbant, est le désherbant le plus vendu au monde. Depuis, bien sûr, après on va pas rentrer non plus super profond dans le sujet, parce que c'est un sujet en particulier qui mérite d'être vraiment développé, mais Monsanto a développé des cultures OGM derrière qui en plus sont les seules à résister à ce Roundup, et donc qui forcent quelque part les agriculteurs à utiliser leurs produits et à être coincés, quoi, en fait. Voilà, je me suis très légèrement éloigné du sujet de l'autodéfense intellectuelle, mais c'est quand même intéressant de voir comment sont construits les spots de publicité et ce qu'on nous raconte dedans, les mots qui sont utilisés, parce que c'est très important d'arriver à décrypter le langage qui est utilisé pour se défendre. Et on voit que, en fin de compte, si on regarde la pub, on a l'impression que ce produit est formidable et qu'en plus il est miraculeux, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque ce produit est une vraie calamité et qu'il pourrit le sol et qu'il tue tout ce qu'il touche. Voilà. On comprend donc l'importance des mots, hein, avec ces exemples, et comment les publicitaires s'en servent, et les services de relations publiques, comme on les appelle aujourd'hui, et de communication aussi. On se rend compte qu'ils sont vraiment importants, très très importants, dans les rouages du système. Bien entendu, aujourd'hui, ils ne travaillent pas que pour les entreprises, hein, ces personnes qui sont occupées de la communication, ou ces firmes de relations publiques. Comme disait Chomsky, ce mode de propagande est utilisé également par les politiques. Au départ, c'était pour les entreprises, mais finalement, il a été récupéré. Comme il le dit dans l'interview que je vous ai diffusée tout à l'heure, dans les pays dictatoriaux, comme l'Allemagne nazie, où il se passait de la même chose en URSS également, ils se sont mis à reprendre un mode de propagande des firmes pour faire passer des idées en jouant sur les émotions et en bourrant le crâne des gens. Ce qui finalement a plutôt pas trop mal marché, hein, puisqu'ils ont réussi à atteindre le pouvoir. Allez, un petit peu de son. Ah, oh, celle-ci, elle est déjà passée. On va changer un peu. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus guiré. Alors aussi, on va approfondir l'aspect sémantique de tout ça. Alors là, je parlais de l'exemple de l'entreprise Monsanto, mais ça se concrétise en d'autres termes. Pour cela, on va alors un peu analyser le nouveau champ sémantique qui se balade de partout dans les médias. Hein. Alors, on utilise ce qu'on appelle des euphémismes, mais qui sont arrangeants pour une certaine classe. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut parler des travailleurs, on ne parle plus beaucoup des travailleurs, ça peut arriver à certains moments. En général, les personnes qui utilisent ces termes-là sont des gens qui sont d'un milieu politique très particulier, qui font référence à certaines choses. Sinon, aujourd'hui, on ne parle plus de travailleurs, on parle de salariés. Parce qu'un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille, donc on a l'impression qu'il vide sa force de travail et voilà, qu'il est en mouvement. Un salarié, c'est quelqu'un de passif, puisque c'est quelqu'un qui perçoit un salaire. C'est une manière aussi de faire jouer les couleurs et les émotions ressenties par l'appellation qu'on donne aux mots. Un plan de licenciement, aujourd'hui, on ne l'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, on l'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est quand même formidable, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, on fout tout le monde dehors, mais c'est pour sauvegarder l'emploi, parce que, bien entendu, si jamais on foutait pas ces gens dehors là, la boîte va couler, donc c'est tout le monde qui finit dehors. Alors on utilise ce magnifique euphémisme, plan de sauvegarde de l'emploi, au lieu de dire plan de licenciement. Aussi, ces euphémismes-là sont énormément utilisés dans le jargon militaire, hein. Ça, d'ailleurs, il y en a un petit tableau dans le livre de Normand Baillargeon. Les bombardements, par exemple, aujourd'hui, on appelle ça des frappes chirurgicales. Il y a aussi les bombes, hein, quand on parle des bombes, on dit des bombes intelligentes, par exemple, hein, parce que, bien entendu, les bombes réfléchissent et disent « non, je vais pas tuer lui » et tout. Voilà, frappe chirurgicale, bon, ils sont pas vraiment dans la chirurgie, mais bon, voilà quoi, c'est comme ça qu'ils utilisent le terme. Alors, par exemple, dans les anciens empires coloniaux aussi, on utilisait déjà ces euphémismes, puisque quand on voulait parler de répression des autochtones, par exemple, eh ben on parlait pas de répression ou matraquage ou de, on parlait de pacification, hein. Voilà, c'est d'ailleurs un terme qui est encore utilisé aujourd'hui. Également aujourd'hui, quand on va parler de l'influence qu'on va essayer d'imprégner sur la société, quand on est une multinationale ou n'importe qui, ou même un pays, un État, quel que soit, peu importe ce que c'est, pardon. Eh ben, aujourd'hui, on n'utilise plus le terme propagande, puisque celui-là, il est fortement connoté négativement par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, puisqu'il a été beaucoup utilisé à d'autres époques. Et aujourd'hui, on parle de on parle de campagne de communication ou alors de relations publiques. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Dans le jargon militaire, pour en revenir à celui-là, par exemple, on va parler de perte collatérale au lieu de parler de décès de civil. Puisque en fin de compte, quand on dit oui, des dommages collatéraux, au passage, la vie de fait, tout ça, bah au final, si on essaye de creuser un peu et qu'on réfléchit 5 minutes, on est en train de nous expliquer qu'on a voulu tirer ou tuer quelqu'un ou qu'on avait une cible en particulier quand on fait des bombardements, sauf qu'au final, on a tué des innocents qui n'avaient rien à voir avec tout ça, certainement des femmes, des enfants, et puis des civils, des hommes normaux qui n'avaient rien à voir avec un engagement militaire ou politique. Ce qu'il y a un autre que je voulais donner en dernier, c'est celui-là, il a été utilisé pendant la guerre au Vietnam. Le gouvernement américain parlait d'ordonnance particulière pour certains territoires. Et en fait, quand il parlait d'ordonnance particulière pour tel territoire, ça voulait dire en gros qu'ils allaient le bombarder au napalm. Donc je sais pas si vous avez déjà regardé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez un petit peu, cherchez des documents sur internet, c'est une catastrophe. En gros, ils balancent un gros liquide qui fait flamber toute une vallée, par exemple. Il y a des images de toute façon qu'on connaît tous, qui sont sorties dans pas mal de journaux, où on voyait des gamins au Vietnam avec la peau totalement brûlée, etc. Donc voilà, c'est un joli euphémisme, ordonnance particulière, comme ça a l'air totalement inoffensif, mais en fin de compte, on brûle toutes les personnes qui sont présentes dans le coin. Alors maintenant qu'on est parti un peu sur les campagnes de propagande du langage et de la communication, écoutons donc Normand Baillargeon. Il va nous parler, donc il est encore avec Daniel Mermet, hein, je me référence pas mal à cette émission, je sais bien. Il va nous parler de la personne qui a inventé ce système de communication, qui a été le tout premier d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Edward Bernays. Je le dis pas super bien, hein, j'ai pas l'accent ni québécois ni américain, je vous prie de m'excuser. Mais voilà, alors il va nous expliquer un peu en détail comment fonctionne l'industrie de propagande, hein, même si maintenant on dit plus comme ça, alors, les relations publiques, la communication. C'est parti, Normand Baillargeon.
Mais justement, alors, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de Bernays. Montre-nous comment Bernays nous a bernés.
C'est très joli, on a été bernés par Bernays. Edward L. Bernays était né en 1891 par là, soit, et il est mort en 1995. Alors, il a vécu 103, 104 ans, ce monsieur-là. Et il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. Alors, cet homme-là va être porté par la commission Creel. C'est à ça qu'il faut faire référence là, d'abord. Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et il se trouve donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Alors, des gens comme Lippmann ou Bernays sont issus de cette mouvance-là. Et Edward Bernays, donc, va sortir de là et à partir des années 20, va mettre sur pied l'idée de firme de relations publiques. Voilà.
Est-ce qu'il y a des femmes qui fument parmi vous? Oui, les femmes. Oui,
c'est,
oui.
C'est des femmes qui fument?
Oui,
c'est très mal vu.
Tu fumes?
Non, voilà. Il y en a au moins une. Il y a une raison pour laquelle il fait, parce que Bernays est un de ceux qui va...
On va te dire pourquoi tu fumes. Pourquoi?
Edward Bernays va mettre les pratiques et les techniques qu'il a inventées, il va les mettre au service de ceux qui sont disposés à payer pour ces bons services, tu vois. Et à un moment donné, la compagnie Lucky Strike va venir le voir, tu vois. Vous connaissez encore cette marque, il y a encore des cigarettes Lucky Strike. Et on va demander à Bernays de corriger le problème suivant. Voici le problème. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac, soit à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors, Bernays, on lui soumet le problème. On lui demande de... corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois. C'est vrai. Et savez-vous ce qu'il va faire? Et voilà un exemple de travail qu'il faut connaître, d'événements qu'il faut connaître. Bernays va jouer... Il était le double neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays. Neveu par... oui, c'est vrai, il était doublement le neveu de Sigmund Freud. Par son père et par sa mère, donc. Il était doublement neveu de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là, ils ont des pulsions, des passions, ça résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Vous suivez? Alors, par exemple, pour la cigarette, Bernays va se rendre compte que beaucoup de gens sont... accueille avec sympathie la cause des femmes, des suffragettes, de la liberté des femmes. Et il va jouer là-dessus pour amener les femmes à fumer. Et là, en 1929, lors de la fameuse Easter Parade à New York, il va couler des informations dans divers journaux et un peu partout, disant qu'un groupe de femmes, certaines d'entre elles étant connues, les actrices, etc., vont poser un geste d'éclat pendant la parade de Easter à New York, tu vois. Quel est ce juste d'éclat-là? Bien, évidemment, il a tout coordonné, hein, il a tout planifié, il a payé ces gens-là, et marchant à New York pendant la parade de Pâques, certaines femmes, et là les journalistes les attendent, le lendemain ça va être dans tous les journaux en première page, sortent des cigarettes et les allument et les appellent des flambeaux de la liberté. Torches of Freedom. Voilà.
Freedom Fries.
C'est assez fort, hein? Torches of Freedom. Alors, donc, Bernays va...
Ça fait drôle, hein?
Petit malaise.
Voilà, donc, et Bernays, donc, l'industrie des relations publiques, c'est quelque chose d'important à connaître, c'est pour prendre le pouls de l'information, de sa circulation dans des sociétés comme la nôtre, tu vois. Aux États-Unis, les derniers chiffres que j'ai vus citaient que 125 000 personnes travaillaient dans l'industrie des relations publiques aux États-Unis. C'était plus que le nombre de journalistes au pays.
Vous êtes toujours dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu. On vient de passer le petit morceau de Normand Baillargeon qui nous explique grosso modo qui est Edward Bernays et exactement la manière dont il a entrepris l'arrivée de l'industrie de la communication dans la société moderne. C'est assez intéressant ce qu'il nous raconte, comment on a appris, comment on s'y est pris du côté industriel des industriels du tabac pour arriver à faire fumer tout le peuple. On s'est d'abord intéressé, donc on a fait appel à ce brave monsieur, ce brave monsieur, façon de parler, qui a ensuite trouvé des moyens de faire passer l'information d'information dans la société. Donc il va encore plus loin, enfin ça va encore plus loin, parce qu'il y a un autre exemple que j'ai découvert, c'est que par exemple donc Normand Baillargeon parle de la manière dont on a fait fumer les femmes avec l'histoire du flambeau de la liberté, et puis les hommes pendant la guerre on envoyait des cartouches de cigarettes puisque ils chiquaient du tabac et ça intéressait pas une partie de l'industrie. Et donc on a encore utilisé une stratégie plus perfide, puisqu'à la Libération, par exemple, en France, quand les Américains sont arrivés un peu de tous les côtés, c'est la marque en question qui a été citée par Normand a été distribuée par cartouche entière et gratuitement à toutes les personnes. Et vu le vent de liberté et l'enthousiasme qui flottait à ce moment-là, c'était forcément stratégiquement très très fort, puisque ça donnait une bonne image de ces cigarettes, et surtout ça rappelle de très bons souvenirs aux personnes qui fument ces cigarettes-là, parce que ça leur rappelle le vent de liberté et la grande joie qu'ils ont pu certainement ressentir à l'époque. Il parle aussi d'une commission qui a été créée lors de la Première Guerre mondiale pour faire rentrer et légitimer le fait que les États-Unis rentrent en guerre, qui s'appelle la commission Creel. J'essaie de prendre l'accent américain, c'est pas facile. Et vous regarderez sur internet, hein, commission Creel, c'est C-R-E-E-L, il me semble, et vous verrez qu'il y a pas mal d'informations. C'est cette fameuse campagne de propagande qu'avaient fait les États-Unis, où on voit l'oncle Sam qui montre la personne qui regarde l'affiche du doigt, en fait, hein, qui est prévu pour, et qui lui dit « Je te veux toi pour l'armée américaine ». Ça, c'est une campagne qui est très très célèbre et qui a plutôt bien fonctionné au final, puisque l'opinion publique a fini par changer et a accepté en partie, en tout cas, l'entrée en guerre. Voili voilou. Alors, voilà, j'avais prévu de passer un morceau, mais vu le timing, là il y en aura trop, ça va être un peu tendu, donc on va sauter un petit peu. Donc, ce que nous explique Normand Baillargeon, hein, c'est que ce monsieur qui a prévu toutes ces campagnes pour les grands groupes du tabac, il est assez malin, il est futé. Donc, malheureusement, et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on peut pas vraiment donner d'armes et dire par A plus B égale C, c'est comme ça qu'il faut se défendre. C'est que c'est juste la seule manière qu'on peut avoir de se prémunir, hein, en tout cas sur ce secteur-là, c'est de connaître comment fonctionne cette industrie de la communication pour arriver à être un petit peu plus critique. Et quand on entend certains messages passer, se dire oui, bon, là j'entends bien ce qu'on me dit, mais c'est un petit peu tendu. Et c'est là où le système aussi en ce moment il est très très fort, hein, vu la manière dont il fonctionne aujourd'hui. C'est qu'on est tous tout seul chez nous, on mange ses pubs dans la figure ou ses campagnes de propagande dans la figure, et on est limité à notre propre expérience et on n'échange pas trop avec les autres. Et au final, même si on se dit que c'est peut-être pas totalement vrai ce qu'on est en train de nous dire, et on n'a pas forcément la possibilité d'échanger et de s'éclairer, et l'émulation qui nous permet d'éclairer la situation. Alors par exemple, pour continuer un peu sur ce qu'on disait, la campagne de communication, c'est ce qui a été décrite par Normand. On va revenir un peu à ce que j'expliquais tout à l'heure, où je parlais des euphémismes qui étaient utilisés, hein, par les classes ou la communication. Alors là, je vais vous lire un petit passage, parce que la littérature aussi c'est intéressant, de George Orwell, qui nous parle de la langue et le politique. Alors George Orwell dit: dans une large mesure, le discours et l'écriture politique consistent, à notre époque, à défendre l'indéfendable. Certes, des choses comme la perpétuation de la domination anglaise en Inde, les purges et les déportations en Russie, le largage de bombes atomiques sur le Japon peuvent être défendues. Mais, parce que bien entendu il y a un mais, sinon ce serait trop facile, mais elles ne peuvent l'être que par des arguments si brutaux que peu de gens pourraient les regarder en face. Et oui, forcément, donc il faut faire passer la pilule. De toute façon, ces arguments ne cadrent pas avec les objectifs que disent poursuivre les partis politiques. Ils diront jamais honnêtement, bien entendu. C'est pourquoi le langage politique doit pour l'essentiel être constitué d'euphémismes, de pseudo-banalités et de vaporeuses ambiguïtés. Des villages sont-ils bombardés depuis les airs, leurs habitants forcés de fuir vers la campagne, leurs troupeaux passés à la mitrailleuse, leurs huttes brûlées avec des balles incendiaires? Cela s'appelle pacification. Et oui, c'est un euphémisme qui est utilisé. Voltons leurs fermes à des millions de paysans qui doivent dès lors fuir sur les routes en emportant avec eux que ce qu'ils pourront porter. Cela s'appelle transfert de population ou reconfiguration des frontières. Des gens sont-ils emprisonnés des années durant sans avoir subi de procès? D'autres reçoivent-ils une balle dans la nuque ou sont-ils envoyés mourir du scorbut dans des camps de planches en Arctique? Cela s'appelle suppression des éléments indésirables. C'est donc George Orwell qui livre un peu son ressenti de ce qu'est pour lui les euphémismes et aussi surtout le langage politique. Bon, bien entendu, c'est un texte qui date de 1946, donc la situation politique a un peu évolué. Il y avait encore de sérieux systèmes totalitaires à l'époque, même si aujourd'hui on pourrait se poser la question de certains systèmes, même si on les croit, on les pense libres, hein, ils le sont pas tout à fait. Et c'est issu de Politics and the English Language. Donc voilà. Et ce petit passage de texte est super intéressant pour démasquer les euphémismes. Il y en a un autre que j'aurais bien voulu vous lire avant de passer un petit morceau. C'est un texte de Carl Sagan, donc je citais tout à l'heure au début de l'émission. Attendez, je remets un peu de musique. Voilà, alors le passage de Carl Sagan que je vais vous lire essaye d'expliquer la manière dont on doit réagir pour essayer d'être sceptique et de se prémunir contre certaines argumentations. Il essaie de... Lui, il appelle ça comme ça, c'est le kit, Normand Baillargeon appelle ça comme ça, le kit de détection de Poutine. Alors ce qu'on appelle une Poutine au Québec, enfin de la Poutine, c'est de la connerie en gros, grosso modo, même s'il y a le fameux plat hein, qui s'appelle la Poutine. Quand il parle de Poutine, lui, c'est pour démasquer les conneries, grosso modo. Alors les petits arguments de Carl Sagan sont ceux-ci. Chaque fois que c'est possible, il doit y avoir des confirmations indépendantes des faits. On ne peut pas prendre les faits les uns dans les autres. Il faut encourager des discussions substantielles des faits allégués entre des gens informés ayant différents points de vue. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut qu'on entende un peu tous les points de vue. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, parce qu'en ce moment, on a tendance à en donner que certains et on fait croire que c'est de la démocratie. Des arguments d'autorité n'ont que peu de poids. Par le passé, il est arrivé à des autorités de se tromper. D'autres se tromperont à l'avenir. Autrement dit, en science, il n'y a pas d'autorité. Au mieux, il y a seulement des experts. Forcément, il y a des gens qui connaissent certains sujets mieux que d'autres, mais il n'y a pas d'autorité révélée qui peuvent décider ou avoir un poids de parole beaucoup plus important que les autres. Envisagez plus d'une hypothèse et ne sautez pas sur la première idée qui vous vient à l'esprit. À chaque fois qu'on reçoit une information, on ne peut pas trancher d'un seul coup. Essayez de ne pas vous attacher excessivement à une hypothèse simplement parce que c'est la vôtre. Demandez-vous pourquoi cette idée vous plaît, comparez-la équitablement avec d'autres hypothèses, cherchez des raisons de la rejeter. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront. Quantifiez si c'est ce que vous cherchez à expliquer se mesure. Quantifiez si ce que vous cherchez à expliquer se mesure. Si vous l'exprimez par une donnée numérique, vous saurez beaucoup mieux discriminer des hypothèses concurrentes. Ce qui est vague et qualificatif peut s'expliquer de plusieurs manières. Bien entendu, il y a des vérités à rechercher dans tous ces problèmes qualitatifs auxquels nous devons faire face. Mais les trouver est un défi plus grand encore. S'il y a une chaîne d'argumentation, un autre argument. S'il y a une chaîne d'argumentation, chacun des maillons doit fonctionner, y compris les prémices, et pas seulement la plupart de ces maillons. Voilà, donc je vais pas tous vous les faire, mais il y a un petit texte comme ça où Carl Sagan nous explique par petits détails comment ils font réagir par exemple lors d'un débat ou quand on reçoit un discours dans la figure pour arriver à croire ou pas croire ou ne pas croire ce qui vient d'être raconté. Alors, nous allons passer un petit peu de musique pour arriver vers la fin de l'émission. Alors, j'aurais peut-être pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire. On va essayer de d'écourter un peu tout ça. Donc, le morceau que je vais vous passer là tout de suite, c'est un morceau de hip-hop qui s'appelle Straight Outta Compton. C'est du groupe américain N.W.A. Ça suffit la musique maintenant. À toi.
You are now about to witness the strength of street knowledge. Showing out, niggas start to mumble. They wanna
sir.
Tell them where you're from.
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. More punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. Empty rent controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a white hand, cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. REN spells red, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton. Compton, 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 Compton.
Is his name and the boy's coming
straight out of Compton. Is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while, and when I see the punk pass I smile. To me it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call easy. But here's a flash, like a shadow in the dark. It's like when I unload, you see a spark and jump over a hesitation, and hear the scream of the one who got the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, straight out of Compton.
Compton, Compton. It was dope.
On va changer un peu parce que il y a toujours les mêmes musiques depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'était NWA avec Straight Outta Compton. C'est pas facile de dire à l'américaine, mais j'essaye. Donc nous sommes toujours sur Radio Canu 102.2 FM. On arrive au terme de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Et ce soir, c'était un petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et ce sera certainement encore la même chose la semaine prochaine parce que c'est un sujet très vaste. Le livre de Norman Baillargeon, je l'ai dans les mains. Il fait 300 et quelques pages. Il est plutôt petit, hein. C'est pas un livre grand format. Donc je vous le reconseille. Je vais y arriver chaudement, très chaudement, avec enthousiasme, parce qu'il est plein de bonnes choses. Alors en plus, ce qui est super intéressant pour ceux qui n'aiment pas spécialement lire des gros pavés, c'est qu'il fait 300 pages, mais qu'on peut le prendre point par point, parce que c'est bien détaillé, hein, dans l'autodéfense intellectuelle qui a écrite Normand Baillargeon. C'est détaillé point par point, donc si jamais il y a certaines choses qu'on considère comme inintéressantes ou qu'on sent que les articles vont être un peu lourds, on peut sauter certains passages. Et puis surtout, il y a vraiment le truc cool, c'est qu'il y a les illustrations de Charb, et ça c'est vraiment sympathique. Voilà, alors on va essayer avant d'arriver à la fin de l'émission, de redétailler, enfin de parler d'une autre chose, pour essayer d'apprendre à se défendre intellectuellement contre tout ce qui est dit autour de nous. Un autre aspect qui est dénoncé dans ce livre, c'est ce que Normand Baillargeon appelle le jargon et la pseudo-expertise. Alors c'est toutes ces personnes qu'on entend à longueur de journée nous donner leurs avis sur certaines choses, mais qui surtout ont tendance à utiliser, notamment surtout dans les écrits, des vocabulaires que les personnes lambda, même qui ont un niveau d'instruction plutôt correct, ne comprendront pas. Ça sert à poser des problèmes à tout le monde, et c'est un petit peu vicieux, on va dire. Mais ça, c'est de cette manière, certains ont l'impression de se légitimer, de se donner de l'importance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un petit passage donc, d'un texte d'une très célèbre astrologue française qui s'appelle Elisabeth Tessier, qui a fait de la. Une, qui a rendu. Alors, attendez. Donc, voilà, c'est un jargon académique. Je vais vous expliquer ce qu'elle écrit. C'est extrait d'une thèse de sociologie qu'elle a récemment soutenue à la Sorbonne. Enfin, récemment, le livre, il date d'il y a un petit moment quand même. Et donc, elle a soutenu à la Sorbonne. La thèse d'une inconvenable vacuité, donc c'est-à-dire que c'est du vide, et de l'avis des experts qui se sont penchés dessus, hein, ils trouvent que c'est vide, et c'est juste en fait un acte militant pour introduire à l'université l'enseignement de l'astrologie. Alors je vais pas vous lire la thèse complète, hein, de toute façon elle est pas complète, je vais peut-être vous lire juste un ou deux articles, et vous allez voir, vous allez avoir mal à la tête. Le pivot et le cœur de l'astrologie, miroir d'une unicité profonde de l'univers, rappelle l'unus mundis des anciens, où le cosmos est considéré comme un grand tout indivisible. Avec le rationalisme et ses lumières, la scission se fit entre cœur, âme et esprit, entre raison et sensibilité. Un schisme socio-culturel qui allait de pair avec une dualité dans laquelle s'inscrit encore notre culture occidentale, malgré le changement de paradigme apparu ces dernières années. Cependant, un nouveau paradigme est générateur d'un intérêt croissant pour les astres, et ce, nonobstant un rejet rémanent qui perdure, lié essentiellement à la confusion et à l'amalgame fait autour des pratiques telles que voyance, tarot et autres. Par rapport à notre vécu, élément fondamental au regard d'une sociologie compréhensive, vévérienne ou simélienne, nous avons voulu privilégier le phénomène des médias, reflet du... Allez, j'arrête parce que là, ça suffit. Donc voilà, vous voyez, au final, les idées qu'elle veut défendre, elles sont pas complexes du tout, puisqu'elle veut tout simplement dire que l'astrologie est quelque chose d'important, elle a le droit de penser ça, après tout. Mais est-ce qu'elle est obligée d'utiliser ce jargon pour embrouiller les masses? Donc c'est un jargon qui est tout à fait exemplaire, qui condense en quelques lignes tout ce que on peut imaginer de pire en la matière, des mots et des concepts pseudo-savants utilisés sans raison, des références artificielles à des concepts, à des théories et à des autres choses prestigieuses. De tels jargons remplissent sans doute plusieurs fonctions. Certains y voient un écran de fumée, destiné à procurer du prestige à ceux qui les utilisent. Hein, ce que je vous disais, c'est la petite élite qui parle bien. Noam Chomsky, lui, alors vous allez dire que je me réfère toujours à lui, hein, mais c'est quand même un sacré penseur et qui, contrairement à ce que certains pourraient croire et qui, contrairement à d'autres, ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent penser, mais décrypte les choses pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Alors il voit, lui, par contre, il fait un petit constat de tout ça, il y voit au moins en partie, une manière pour les intellectuels de cacher la vacuité de ce qu'ils font. C'est-à-dire cacher le fait que dans leur thèse ou dans certaines choses, en fait, il n'y a pas tellement d'idées que ça. Alors il le dit dans ces termes, les intellectuels ont un problème, ils doivent justifier leur existence. Or, il y a peu de choses concernant le monde qui sont comprises. C'est vrai qu'on se pose des questions, surtout au final. La plupart des choses qui sont comprises, à part peut-être certains secteurs de la physique, peuvent être exprimées à l'aide de mots très simples et dans des phrases très courtes. Mais si vous faites cela, vous ne devenez pas célèbre, vous n'obtenez pas d'emploi, les gens ne révèrent pas vos écrits. Il y a là un défi pour les intellectuels. Il s'agira de prendre ce qui est plutôt simple et de faire passer pour très compliqué ces choses-là et très profondes ces choses-là. Les groupes d'intellectuels interagissent comme cela. Ils se parlent entre eux et le reste du monde est supposé les admirer, les traiter avec respect, etc. Mais traduisez en langage simple ce qu'ils disent et vous trouverez bien souvent ou bien rien du tout, ou bien des truismes, ou bien des absurdités. Voilà, c'est assez clair la manière dont on juge l'utilisation excessive de jargon super compliqué, la manière dont on le juge Noam Chomsky, et je pense que là-dessus je le rejoins totalement et vous allez être certainement très nombreux à penser comme moi. C'est que on peut parfois dire les choses, même si un peu de jargon dans certains cas permet d'être précis sur certains termes, on peut dire des choses très compliqué avec des mots très simples au final. D'ailleurs, je me rappelle plus quand c'était, mais il y a quelques années de ça, Noam Chomsky avait reçu une récompense là-dessus parce que c'est l'intellectuel qui était considéré le meilleur au niveau de la manière d'utiliser son langage. Forcément, il est linguiste, vous me direz, donc il maîtrise la situation. Mais en fait, c'est celui qui était considéré comme le plus agile et le plus habile avec son langage, car il utilisait des mots simples, très simples, compréhensibles par tout le monde, ce qui est donc forcément très encourageant pour éduquer les masses populaires qui n'ont pas forcément le bagage d'instruction qui leur permet de décrypter tout ce qu'on entend tout le temps. Voilà, donc voilà pour ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas eu le temps d'évoquer tout ce que je voulais évoquer. Je voulais parler des syllogismes et des paralogismes. C'est une formule un peu pédante pour parler de la manière dont on associe des idées pour argumenter. Hein, c'est en caricaturant un peu. Alors je vais vous l'évoquer deux secondes. Le syllogisme et le paralogisme, par exemple. Donc c'est, il me semble que c'est une idée de Platon, non, de Socrate. Donc par exemple, Socrate disait, ça c'est un paralogisme, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ces associations d'idées qui permettent d'arriver à une conclusion. Et la prochaine fois, on essaiera de donner d'autres exemples qui ont été parfois utilisés ou qui seront certainement utilisés dans beaucoup de débats à l'avenir aussi, où on essaye de faire passer pour vrai des idées qui en fait sont totalement fausses en faisant des associations d'idées qui sont complètement stupides. Mais qui au final arrange bien les personnes qui pratiquent le sophisme. Voilà, alors la semaine prochaine, je disais, on va essayer de parler un petit peu de ces syllogismes et de ces paralogismes. On fera peut-être une petite partie sur les mots fouines, qui est aussi sympathique, puisqu'il y a des mots qui permettent de se dédouaner de certaines responsabilités dans certaines situations, hein, puisque c'est comme si, comme quand on était enfant, un peu, quand je dis, ouais, j'ai dit ça, je t'ai promis, mais j'avais croisé les doigts. Voilà, c'est ces mots fouines qui permettent, cachés quelque part dans une phrase, de vous dire à la fin, non, mais regarde, il y avait le mot, donc c'était peut-être, donc tu t'es trompé, tu nous as cru. Voilà, il y a ces mots-là qu'on va essayer de démasquer, si je puis m'exprimer comme ça. Alors la semaine prochaine, on va aussi attaquer l'autodéfense intellectuelle par d'autres aspects, en citant Étienne de la Boétie qui disait « Ils ne sont pas grands, non pardon, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Et là, en s'appuyant sur cette citation d'Étienne de la Boétie, on va attaquer l'autodéfense par l'aspect de soumission à l'autorité. Ça, c'est une chose qui nous coûte beaucoup lorsqu'on essaye de se défendre contre les discours ambiants. C'est que on est tous nés et on a tous été éduqués par une certaine forme d'autorité et on a tendance à s'y plier dans beaucoup de situations. Donc la semaine prochaine, on va étudier cette soumission à l'autorité qui peut nous attaquer et peut nous empêcher de nous défendre intellectuellement. Et pour cela, on va donc parler de la soumission à l'autorité officielle ou alors d'un groupe qui peut agir comme une autorité, ou aussi de la soumission à l'autorité émanant d'un uniforme qui se trouve en face de nous. Pour illustrer tout ça, on va parler de l'expérience de Milgram. Je pense que pas mal de vous ont déjà entendu parler. Expérience menée dans les années 60, il me semble, par ce célèbre psychologue social. L'expérience de H également, qui elle parle plus de l'autorité du groupe sur une seule personne, du conformisme. Et on parlera aussi de ce que je disais aussi, l'autodéfense et de l'autorité par rapport à l'uniforme, en illustrant tout ça par rapport à ce qui se passe dans les pubs ou dans d'autres endroits. Voilà. Ensuite, on parlera aussi la semaine prochaine des différences de perception de certains événements qui peuvent arriver. Selon la vie qu'on a eue, l'empirisme, les expériences, on capte certaines informations ou les choses qui se passent de manière différente par rapport à d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut nuire à notre autodéfense intellectuelle. Par notre vécu ou des choses qui nous ont marqué, on peut mal assimiler certaines informations. On peut appeler cela de l'auto-désinformation. C'est la manière dont on perçoit la mauvaise perception qu'on peut avoir de certains événements qui nous conduit à l'erreur. L'auto-désinformation, donc, c'est lorsqu'on se laisse tromper par sa propre expérience, par son expérience personnelle. Voilà, donc tous les thèmes qu'on va essayer d'aborder la semaine prochaine, avec le temps imparti habituel, c'est-à-dire une heure de 23h à minuit, ou de 23h15 à minuit, selon l'heure à laquelle on commence l'émission. Alors je vous remercie d'avoir écouté l'émission Les Yeux Grands Ouverts ce soir, pour ceux qui sont encore derrière leur poste. Alors je vous rappelle que nous avons toujours la boîte mail, lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, pour ceux qui veulent faire des suggestions, qui veulent même peut-être nous faire diffuser de la musique, s'ils font de la musique. Ou juste vous passer des idées, le blog de l'émission qui se trouve sur le site de Radio Canu. C'est certainement blog Radio Canu, etc., avec les yeux grands ouverts, mais moi ce que je fais, c'est que vous allez directement sur la programmation de Radio Canu avec tout le planning et toutes les émissions qui passent, et vous cliquez sur les yeux grands ouverts et vous allez tomber directement sur le blog avec tous les podcasts. Il y a également la page Facebook où vous pouvez suivre l'actualité de l'émission et certains documents qui sont postés de temps temps en temps. Donc c'est Les Yeux Grands Ouverts aussi, tout au pluriel, sur le réseau social. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette campagne de soutien à la radio Canu, Radio Canu, 102.2 FM à Lyon, pour que la radio puisse se permettre d'acheter des locaux pour pérenniser son activité et ainsi préserver le ton de liberté formidable que nous avons sur la bande FM lyonnaise. Donc n'hésitez pas. Alors je vais peut-être vous redonner l'adresse, hein, ce sera plus pratique parce que là je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais faire ça. Alors si vous en voulez, envoyez vos dons. De toute manière, vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est assez clair. Mais si vous n'avez pas internet, vous envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Voilà, voilà pour ce soir. Et la semaine prochaine, on continuera avec l'autodéfense intellectuelle. Je pense que ça devrait nous prendre 3 émissions. Et puis ce sera terminé. Et c'est super intéressant. Donc je vous encourage à être là et être à l'écoute la semaine prochaine, puisque l'expérience de Milgram et de H sur la psychologie sociale sont des choses qui sont énormément révélatrices du comportement humain et de comment les crimes de guerre aussi horribles que ce qu'a pu commettre l'Allemagne nazie dans les années 30 et 40 ont pu être possibles, comment des individus ont pu se plier à un système comme celui-là et faire autant de mal. Et bien l'expérience de Milgram prouve que l'autorité sur l'être humain a une force incroyable, surtout lorsque celle-ci est un peu isolée. Voilà, voilà pour ce soir. Et bien je vous souhaite une excellente fin de soirée et certainement une bonne nuit parce qu'il est un peu tard, et je vous dis amour et révolution, et puis à la prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, 23h, de 23h à minuit. Bonne soirée à tous. Salut, salut.
Nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre...